Shavuot Tov.
Voilà, on était Sanhedrin Daf Tzadik Amud Bet. Alors, on était ici. Sha'alu Romi Mesra Rabbi Shua ben Hanania. Sha'alu Romi et Rabbi Shua ben Hanania. Donc, les Romains, ils ont demandé une question à Rabbi Shua ben Hanania. Minaïn. Alors, 2, 4, 6, 8, 10, 11 lignes, voilà. Vous comptez 11 lignes où c'est large. Sha'alu Romi Mesra Rabbi Shua ben Hanania. Où c'était cette discussion? Ou à Rome, ou en Eretz Israël. Minaïn shakadosh baruch hu mechayem mitim. D'où on sait qu'Akadosh Baruch Hu il fait revivre les morts. Veyodea ma sha'atid liot, et il sait le futur. Donc deux questions ils ont demandé. Amar le hu, il leur a dit, tarvay ominimi krasé. Les deux choses on peut déduire de ce verset. De quel verset? Chez Neymar. Voyomer Hashem, El Moshe, Incha, tu vas te coucher avec tes parents, tu vas mourir. Ha'am, et ce peuple va se lever et il va dévier de la Torah. Alors lui, il dit, on peut déduire de ce verset 2. On peut lire le verset. Incha, tu vas te coucher avec tes parents, Vekam, tu vas te lever. Donc ça, c'est Triatamitim. Et l'autre explication, ce peuple, il va se lever et il va dévier. Donc Dieu, il connaît le futur. Voilà du même verset, vous voyez les deux choses. Alors, eux, ils ont dit, on n'est pas obligé de mettre un vers, on n'est pas obligé de lire, tu vas te coucher avec tes parents, tu vas te lever. On peut mettre un virgule après avotecha. Tu vas mourir. Et le peuple va se lever. Pas toi. Le peuple va se lever. Ils vont faire des bêtises. Donc, on ne va pas encore triatémétime de ce verset. Amar le Houy leur a répondu. Alors, au moins, vous avez reçu la moitié de la réponse. Au moins, la moitié, vous pouvez retenir. Que Dieu, il connaît le futur. D'accord, la première chose, je ne vous ai pas prouvé, mais au moins, je vous ai prouvé la deuxième moitié. La Chora, à première vue, la Gemara est un peu difficile. Comment ça se fait que Rabbi Yeshua ben Hanania n'a pas apporté un autre verset pour prouver que Triatimitim? Ils ont demandé deux questions. À la fin, il a répondu qu'une. Eux, ils auraient dû dire, monsieur le rabbin, c'est beau, une chose, mais la deuxième chose, vous n'avez pas répondu. Alors voilà, vous n'êtes même pas capable de répondre à la deux. La première question de Triatimitim, vous n'avez pas répondu, monsieur. Alors vous n'avez pas de preuve. Eux, ils auraient dû réclamer cette preuve. Et lui de lui-même. Il aurait dû apporter une autre preuve. Et pourquoi il s'est fatigué de donner la preuve pour la première des choses? S'il ne tient pas, il ne savait pas qu'on peut réfuter cette preuve. Et pourquoi il n'apporte pas d'autre? Il n'avait pas d'autres preuves dans la main. Le sens de la Gemara, il est comme ça. D'abord, il faut comprendre. La Gemara nous dit Sha'al Romiim. Ici, ce n'est pas marqué Sha'al Min en Apikoires. Il n'est pas marqué Sha'al ou Philosophim. Ici, le texte il dit Sha'al Romiim, les Romains. Qu'est-ce que ça veut dire, les Romains? Qu'est-ce que c'est cette expression? Chaque personne, il a un titre. Ah, il est philosophe, il est, ça se trouve dans la Gemara, Sha'al, philosophe Echad, Chacham Me'umot Olam. Ici, le texte dit, les Romains ont demandé. Qu'est-ce que ça signifie, les Romains? Mais le pshat, il est comme ça. Le Romain, Rome, c'est un royaume. C'est un gouvernement de Rome, c'est un empire. Les gens de l'empire lui ont demandé. Pas des philosophes, mais les gens de l'empire. C'est quoi un empire? Premièrement, ce sont des hommes politiques. Ici, c'est une question politique, ce n'est pas une question religieuse. Ça veut dire quoi? Pourquoi un homme politique poserait cette question? Qu'est-ce qu'il s'en fiche? Mais le pshat, il est comme ça. Il y a un livre chez le Tanakh qui s'appelle le livre de Daniel. Et Daniel. Dans le livre de Daniel est marqué plusieurs fois le futur des empires. Premièrement, il y a dedans l'histoire de Nebuchadnezzar. Que Nebuchadnezzar, il avait vu un grand dans son rêve, il a vu un pesel. Il a vu une image d'une forme où la tête était en or, et après il y avait la poitrine en argent, après les pieds en cuivre, et après tout il s'est écroulé. Une pierre est tombée sur les pieds, et le colosse s'est écroulé, et Nebuchadnezzar voulait savoir, il a invité tous les sages, tous les interpréteurs de rêves, et Daniel lui a expliqué. Ce sont les empires. La tête en or, ça c'est toi. Après vont venir les Perses. Après vont venir des Grecs. Après vont venir un autre empire. Et à la fin, la pierre qui va tomber, une petite pierre sur les pieds, les pieds en argile, en pierre. Ça c'est Mashiach qui va venir. Tout il va s'écrouler. À la fin, le royaume sera redonné au peuple juif. Ça c'est ce que Daniel il a dit. Après, il y a une autre chose que Daniel il a vu dans le rêve. Il a vu les quatre animaux, le lion d'abord, et après il a vu l'ours, après il a vu le panthère, après il a vu la bête terrible. Et il a demandé Malach, le Malach lui a expliqué, d'abord c'est la Babylonie qui va régner, après c'est les Perses qui vont régner, après les Grecs qui vont régner, après ça va venir les Romains qui vont régner. Et à la fin, où il s'écroule, Mashiach vient. Tout ça, c'est marqué dans Daniel, dans plusieurs formes. Et ce livre a été publié. Et chaque fois quand un politique est venu à Yerushalayim, ils ont rencontré le peuple juif, le livre de Daniel les a interprétés. La Gemara nous raconte quand Alexandre le Grand est venu, il a... Une seconde. Quand Alexandre le Grand... Alexandre le Grand est venu, toute l'histoire de la Gemara, qu'il aurait voulu que les Juifs ils lui aident à gagner contre les Perses, et les Juifs ils ont refusé, Shimon HaTzadik a refusé, il a dit on ne peut pas aider parce qu'on a promis être fidèle à Cyrus, mais il a prié pour qu'il gagne, il a gagné, et après tout le monde connaît, il s'est prosterné devant Shimon HaTzadik. Il a dit, cet homme-là, quand lui, je vois dans le rêve qu'il prie, je gagne la guerre. Alors, il a demandé Shimon HaTzadik, dans Flavius raconte la fin de l'histoire que la Gemara ne raconte pas, il a demandé, pourquoi vous avez prié que je gagne? Il a dit, parce que le prophète nous a dit que les Grecs, ils vont gagner contre les Perses. Et le moment où il est venu, donc je prie que vous gagniez. Il a dit, c'est quoi les prophètes ont dit? Ça veut dire quoi ça? Il a dit, mais votre empire ne vient pas par hasard, c'était prévu par Dieu. Comment prévu par Dieu, ça veut dire quoi ça? Oui, il y a un livre qui s'appelle Daniel. Il nous a raconté le Perse, la deuxième année était la Perse, et vous êtes la troisième année, le Panthère. Il a dit, où ce livre? On lui a apporté le livre de Daniel, on lui a lu. Il a dit, quoi? Vous avez un prophète? Comment il savait ce qui va arriver? Il dit, Dieu lui a dit, Alexandre le Grand, il dit quoi? Dieu connaît le futur et il donne à vous, vous avez des prophètes qui voient le futur. Il était émerveillé de ce phénomène. La quatrième animal, ça c'est les Romains. Et les Romains, c'est marqué aussi dans le texte, ils vont régner dans le monde et à la fin, ça va s'écrouler. Et Dieu va leur payer pour ceux qui font du mal au peuple juif. Et ça, dès que les Juifs sont venus en contact avec le peuple juif, ils ont fait exiler le peuple juif à Rome, et bien doucement, doucement, ils ont entendu parler de ce que les Juifs disent. Oui, les Juifs, ils ont dit, oui, on sait, Dieu nous a mis sous les Romains, Daniel, il a dit, à la fin, votre empire s'écroule. Ça, c'est quelque chose qui interpelle les politiques. Quand eux, ils ont demandé deux questions. Est-ce que ça existe triatamitim? Ils ont dit oui, bien sûr, triatamitim, et les tzadikim vont revivre. Alors, d'où vous savez de la Torah? Est-ce que c'est marqué vraiment dans la Torah? Est-ce que Dieu connaît vraiment le futur? Pourquoi ils veulent savoir si Dieu connaît le futur? Parce que le livre de Daniel, Il ne peut être vrai que si Dieu connaît le futur. Est-ce que vous, les rabbins, vous avez inventé ça? Non, c'est marqué dans la Torah. Ça, c'est le sens de la question. Il demande deux questions. Triatemitim, est-ce que Dieu connaît le futur? Est-ce que c'est marqué dans la Torah? Pourquoi il parle des triatemitim? Parce que la fin de l'histoire de Daniel, le dernier verset, Vata, tu vas aller. Toi, Daniel, le livre, il termine. Toi, Daniel, tu vas mourir. Tu ne vas pas voir la délivrance. Tu ne vas pas voir la fin de l'histoire de ce que tu as annoncé. Tu vas mourir. Mais quand les événements arriveront, tu vas te lever, triatémitim. Tout le monde sait que Daniel, il a parlé noir sur blanc des triatémitim. Donc, les Romains, les politiques des Romains, ils voulaient savoir. Est-ce que ce livre de Daniel, c'est un livre inventé par des rabbins ou ça a un appui dans le Chumash? Donc, ils ont demandé, est-ce que Triatemitim est marqué dans la Torah? Et est-ce que Dieu y connaît le futur? Alors, lui, il a répondu d'abord avec un pasuk du Chumash, on voit les deux choses. Ils ont dit, non, le Triatemitim, on peut refuter. On peut lire Vekam pour après. Et il dit, d'accord, lisez le Vekam après. Si vous ne voulez pas lire le verset... Comme je vous le propose, il va se lever. Alors vous mettez le kam pour après, le kam a amasé. Donc vous voyez que Dieu connaît le futur. Ils ont entendu ça, ils n'ont plus posé de questions. Pourquoi ils n'ont plus posé des questions? Parce que c'est ça la question qu'ils voulaient savoir, pas la première. Je m'explique. Imaginons-nous, un homme il pose plusieurs questions à quelqu'un d'autre. Et il veut qu'on lui réponde toutes les questions. Parfois, il ne veut pas qu'on lui réponde toutes les questions. En vérité, il ne demande qu'une question. Tout le reste, c'est pour le décor. Non, mais il va venir chez un Richard. Et un pauvre, il vient chez un Richard. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je peux vous poser des questions, oui. Comment vous êtes devenu riche? Et quel pays venez? Qu'est-ce qui vous a donné richesse? Et dans quelle banque vous mettez votre argent? Et combien vous en avez? Et je vous demande, est-ce que vous pouvez me donner 1 000 euros de tzedaka? Alors, le riche, il va lui dire, moi, j'ai gagné l'argent au Klondike quand j'ai creusé, je cherchais de l'or et je viens de tel et tel pays. Alors, le pauvre va continuer de demander, Mais si le riche, il va répondre à la dernière question. Pour les 1 000 euros, je vous réponds, oui ou non. Alors, le pauvre ne va plus poser les questions où il a gagné l'argent. Parce qu'en vérité, il n'y a que cette question qui l'a intéressé. Le pauvre veut savoir si le riche il lui donne 1 000 euros ou pas. Le reste, c'est pour la décoration. C'est pour un peu remplir le truc. Comment ça va, truc. Mais en vérité, ce n'est pas ça qui l'intéresse. Ça intéresse la dernière des choses. Les Romains, ce que les intéressés, ils veulent savoir. Quoi? Les Juifs disent que Dieu voit le futur et il a vu que les Romains gagnent la guerre contre les Juifs et après, l'Empire romain va s'écrouler. Et à la fin, les Juifs vont être les chefs. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? C'est la seule chose qui les intéresse. Mais dans ce livre d'Adénil, on parle de triatémitim. Que si eux, ils tuent les Juifs ils vont revivre. Alors, ils veulent savoir. Daniel, il dit qu'ils vont être tzadikim, vont revivre. Est-ce que c'est vrai, triatémitim de la Torah? Est-ce que Dieu connaît le futur? Il leur a donné deux psouk et un pasouk. Ils disent la première chose, triatémitim, ce n'est pas une preuve. Rabbi Shlomo Khanani dit, mais la deuxième chose, Dieu connaît le futur. Donc, du moment que Dieu connaît le futur, ce que Daniel dit peut être appuyé sur la Torah. Ah, peut-être c'est vrai. Peut-être c'est vrai, ils ont reçu la réponse. S'il y a triatémitim ou pas, ça n'est plus important pour eux. Ils ne demandent même pas ça. Et Rabbi Shlomo Khanani, il a bien compris, ça ne les intéresse pas ce point. Ça les intéresse seulement par la partie politique qui les intéresse. Alors, on va continuer. Itmanami, Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon bar Yochai, Minayin Shakadosh Baruch Hu Mechaye Metim, d'où Akadosh Baruch Hu, d'où on sait qu'Akadosh Baruch Hu, il fait revivre les morts, Yodé Ma Shatid Liot, il connaît le futur. Shneema Hin Chashoche Bimarotecha Vekam. En vérité, ce verset dit les deux choses. Parce que ce verset, le Psalm il est toi, tu vas te coucher, tu vas te lever, c'est vrai. Et le peuple va fauter, c'est aussi, c'est vrai. Dieu, il connaît le futur. En vérité, le verset veut dire Dieu. Mais ceux qui ne veulent pas la première, au moins il a la deuxième. Tanya, Amarabileza Brabiosi. Rabileza Brabiosi l'a dit, c'est le fils de Rabiosi. Rabiosi était plus âgé que Rabbi. Rabileza Brabiosi était dans la génération de Rabbi. Il était un peu plus âgé aussi que Rabbi. Mais d'abord, Zez Yafti Sifrei Minim. Avec, il y en a un qui dit ça, Sifrei Kutim. Avec ça, je peux prouver le mensonge des livres de Sifrei Torah que les Samaritains ils ont écrits et les chrétiens. En tout cas, une partie des chrétiens, c'est les chrétiens avec un grand balagan, beaucoup de groupes chez eux. Dans le christianisme, au début, il avait beaucoup, beaucoup des avis. Il y en a qui disaient il faut accepter les livres saints des Juifs, le Tanakh. Il y en a qui disaient surtout pas. Il faut tout rejeter, il faut prendre quelques mots et tous les autres. Heureusement, Minashamaim, il y avait Nes, qu'ils ont accepté que le Tanakh s'est vu Minashamaim. Il y avait d'autres, des marcionistes, etc., qui disaient si on accepte tout le Tanakh, notre mouvement s'écroule. Alors, il ne faut pas l'accepter. Autrement dit, on ne peut pas accepter, sinon ça ne tient pas. Bon, alors en tout cas, ils ont écrit le Tanakh, mais ils ont falsifié. De temps en temps, ils ont mis une fausse information dedans. Mais d'abord, c'est Ziafti Sifrei Minim. J'ai une fois prouvé à ces apicorsim leurs yufs. Chayou Ambrim, eux, ils disaient « Entriatemiti menatora ». Ça veut dire le pasuk « In hachorevim avetech avekam » Ils ont fait une sorte, surtout un pirouche qu'on ne peut pas dire Moshe va se lever. Martelem, Ziaftem Toratrem, à tout prix, vous avez interprété ce passouk qui n'a pas de triatemitim dedans. Velohilitem biatrem klum, mais vous n'avez rien gagné. Parce que vous avez traduit la Torah, ils ont traduit la Torah en grec, il y avait différentes traductions chez eux. Vous dites triatemitim, c'est pas marqué dans la Torah. Eh bien, vous êtes trompé. Arrivo Omer, il est marqué dans la Torah. Hikaret, tikaret, anefeshai, avonaba. Au début, les Samaritains, les chrétiens, ils écrivaient en lachant la Kodesh aussi. Hikaret, tikaret, anefeshai, avonaba. Hikaret sera exterminé. Tikaret sera exterminé. Anefeshai, cet âme, avonaba. Le péché reste collé à elle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ikaret, tikaret. Ça veut dire quoi? Ba'olam hazé. Sera exterminé de ce monde. Avona ba, le péché reste en elle. Le eimat. Pour quelle époque? Exterminé, ça veut dire mourir. Avona ba, le péché reste collé. Sur quoi? Et quand on est mort, on n'existe plus. Ça veut dire quoi, le péché reste collé? Là, ça veut dire l'olam haba pour le monde futur. Ça veut dire qu'après la vie, il y a encore une vie. Forcément, il y a encore une vie. Le mot l'olam haba, c'est la vie après la vie. Et il y a différentes choses. Il y a la vie, olam neshamot, après la mort. Après, il y a l'époque de Mashiach, et triatamitim. Olam haba, tout il s'appelle d'une certaine manière olam haba. Le monde futur, après la mort, il y a encore un monde. Alors, le pasuk qu'il dit, Hikaret, Hikaret, c'est-à-dire mourir dans ce monde, avant là-bas, et le péché reste forcément, il faut que la personne existe encore après, il y a un monde, il y a une vie après, et cette vie, il faut savoir si le péché reste collé ou pas. Et le pasuk qu'il dit reste collé, donc il y a forcément une autre vie. Donc, il y a Olam Haba. Amor, les Rav Papa là-bas, les Rav Papa, il dit, Abba, il est. Mais eux, ils auraient pu répondre. Lui, il aurait pu dire, Rabbi Yossi, Rabbi Lez, Rabbi Yossi, il aurait pu dire à ses goyim, mais hikaret, tikaret. Pourquoi il était obligé d'apporter le mot avonaba? Déjà, l'expression double hikaret, tikaret. Pourquoi il y a une double expression? N'est-ce pas? Hikaret, ça veut dire dans ce monde, et tikaret, ça veut dire dans l'autre monde. C'est un homme qui n'est pas Hayav Karet. Il a un autre monde. Il a le monde futur. Mais ce qui a fait ses grandes Averot, Ikaret, Tikaret, n'a pas le monde futur. Il y a des Averot où c'est marqué la Torah, mais Nichrat Anefeshahi. Il y a des plus grandes Averot où c'est marqué Ikaret, Tikaret. Alors, pour les graves avérates, il n'y a pas d'olam haba. Alors, donc, c'est marqué Hikaret, Tigaret, un dans ce monde et dans l'autre monde. Donc, c'est une preuve que si on n'a pas fait ces graves avérot, il y a eu un monde futur. Pourquoi Rabbi Lézard, Rabbi Yossi n'a pas répondu du mot Hikaret, Tigaret? Alors, on répond parce qu'ils nous avaient amralé, parce qu'eux, ils auraient pu répondre Libra Torah, que la son béné Adam. La Torah parle comme le langage des humains. Le langage des humains, que des fois on double pour renforcer la chose. Il y a des choses, des fois on dit à des gens quelque chose, donc on ne le double pas, ils ne comprennent pas bien l'importance. La Torah nous dit pour donner staka, naton titen, donne, donne. Je veux dire une fois donne, c'est clair. Oui, mais les humains, ils ont la coutume, je n'écoute pas très bien ce qu'ils disent. Alors quand je vais insister, je dis donne, donne, on dit deux fois. Donc on peut dire, la Torah utilise un langage humain. Donc, Hikaret, Hikaret, peut-être en vérité, il s'agit que de ce monde. Peut-être qu'il n'y a pas d'autre monde. Il n'y a que ce monde. Mais la Torah insiste, Hikaret, Hikaret, pour faire bien comprendre, comme les humains qui font comprendre à l'autre. Hikaret, oui, on sera exterminé de ce monde. Oui, oui, exterminé de ce monde. Deux fois dans ce monde. Ils auraient pu dire comme ça. C'est pour ça, Rabbi Eliezer Rabbi aussi, il a pris le devant. Il a déduit du mot avon là-bas. Alors, la Torah nous dit que Tanaï. En vérité, c'est un machlok et Tanaïm. Ikaret, ikaret, ikaret volamazet, ikaret volamaba, dit Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il y a toujours machlok et Rabbi Akiva, Rabbi Ishmael. Si quand il y a deux verbes répétés, est-ce qu'on dit c'est un langage comme les humains ou est-ce que c'est une dracha? Rabbi Akiva dit non. La Torah, ikaret, ikaret, c'est forcément deux choses. Donc le premier, ikaret volamazet, ikaret volamaba. Voilà les paroles de Rabbi Akiva. Amolo Rabbi Ishmael, Rabbi Ishmael, il dit, Va'alo kvar ne'emar et Hashem hu megadef v'nichrata. Le verset avant, il dit et Hashem hu megadef. Il a parlé des paroles contre Dieu v'nichrata. Si toi tu dis les mots hikaret c'est une, tikaret c'est deux, et Hashem hu megadef, donc ça fait trois. V'chishlosha olamim yesh. Est-ce qu'il y a trois mondes? Il y a ce monde, il y a l'autre monde. Il y a des détails de l'autre monde, mais il y a ce monde et l'autre monde. Alors pourquoi la Torah nous dit Hikaret, Hikaret, Venichreta trois fois? Et là, on doit dire autrement. Venichreta, Bolam Hazé, Hikaret, c'est l'Olam Abba, et Hikaret, Hikaret, Ibrak, l'Oshem, Bnei Adam, le langage humain. Ça, c'est le Shita de Rabbi Shmuel. Ben Rabbi Ishmael ou Ben Rabbi Akiva avon abba mai avde beit. Maintenant, la Gemara demande selon Rabbi Ishmael, selon Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'on fait avec avon abba? Étant donné que le hikaret, on a hikaret, bolamazé, hikaret, trinkaret, bolamaba, on n'a plus besoin le mot avon abba. Comment eux, ils interprètent le mot avon abba? La Chedetania, pour une dracha que nous avons vue dans une autre braïta. Yachol, j'aurais pu croire à Philo Asa Teshuva. J'aurais pu croire que cette extermination, elle se réalise même si l'homme il a fait choua, que c'est définitif. Alma de l'Omar, avona ba. Si le péché est sur la personne, l'Omar dit, elle est vismancha avona ba. Les ikaret, ikaret, ne seulement si l'homme ne fait pas choua. Mais si on fait choua, alors en effet, on peut réparer les choses. Ça, la Cléopâtre a mal que ta et Rabbi Meir. La reine Cléopâtre, elle a demandé Rabbi Meir. Alors Cléopâtre, c'est quoi? C'est un nom pour beaucoup des reines. Il n'y a pas qu'une Cléopâtre. Les Grecs et les rois grecs en Égypte, depuis Ptolémée et pendant plusieurs siècles, toujours on appelait la reine Cléopâtre. Alors, il y a beaucoup d'histoires chez les Goïm sur Cléopâtre, sur la Gemara. Et des fois, c'est sur celle-là, celle-là, c'est sur une autre. On doit dire probablement que le mot Cléopâtre, ce n'est pas un nom précis. C'est un nom que veut dire la reine, son excellence. C'est un genre comme il y a du paro en Égypte. Tout le monde s'appelait Paran, les pharaons. Dans des siècles, pharaon. Et c'est Plishtim, c'était Avimelech. Cléopâtre, ça doit être un nom, je ne sais pas quoi, qui veut dire la reine. Ça, la Cléopâtre a mal qu'à être Rabbi Meir. Elle a demandé Rabbi Meir. Où elle a rencontré Rabbi Meir? Soit Rabbi Meir, il était en Égypte. Normalement, c'était les rois en Égypte, où elle est venue en Eretz, où lui est parti là-bas. Elle a rencontré quelque part cette Cléopâtre. Amra, elle disait, Yadana, moi je sais déjà, j'ai déjà appris, de Chaye Chachve, que les Chachve, ceux qui sont morts, Chaye vont vivre. Ça, j'ai déjà appris. Ça veut dire, elle s'intéressait, les goïms s'intéressaient, il y avait une effervescence au Proche-Orient. Les Juifs sont partis en exil, se sont éparpillés. Ça a créé un phénomène dans le monde. Partout, les gens, ils ont commencé à s'intéresser au judaïsme, aux idées de la religion, Dieu et le futur. Enfin, le monde entier était en ébullition. Après, les chrétiens, ils ont tiré vers eux. Les juifs, ils ont dit, vous voulez venir juif, faire 613 mitzvot, sinon vous restez des bons goyim. Vous faites service ordonné noir et vous croyez à la Torah. Et les chrétiens, ils ont ajouté, non, vous êtes meilleur que les juifs. Si vous acceptez ce que nous disons sans faire la Torah, vous êtes meilleur que les juifs. Et ça c'est l'échec, malheureusement. Alors, ça a plus attiré. C'est pour ça, sinon, il n'y a pas eu de chrétien. Peut-être les goyim, ils auraient peut-être accepté ce que la Torah dit directement. Il y a le judaïsme, il y a les juifs, 613 mitzvot, les goyim, ils sont les noirs. Mais les goyim, ils ne sont pas équivalents juifs. Les chrétiens ajoutaient, vous êtes équivalents, vous êtes encore meilleurs. Et pour dire que le meilleur, on est obligé d'insulter les juifs. Donc, ça a impressionné mieux les juifs et encore d'autres cheshbonot au ciel. Alors, en tout cas, les diadanes, je sais de Chaye Chechve, que les Chaye vont vivre à Chechve ceux qui sont morts. D'où je sais. Car il est marqué dans le verset, il a carrément entendu ce que les Chachamim ont dit. Ils vont pousser de la ville comme l'herbe de la terre. Qui vont pousser? Les tzadikim. Les tzadikim viendra le moment que les tzadikim vont pousser dans la ville. Quelle ville? C'est Yerushalayim. Chidemitim sera Yerushalayim. Comment sera Yerushalayim? À quel jour il va amener les tzadikim à Yerushalayim? Et qu'est-ce qu'on fait avec tous les millions, centaines de millions des Juifs qui étaient à Khoutzlaaret? Des millions de juifs au Maroc, des millions, combien de juifs au Maroc pendant 1000 ans, et en Espagne, et en France, et en Angleterre, et en Hollande, et en Pologne, et en Russie, partout. Des millions, des dizaines, des cinquantaines, des centaines de millions de juifs. Comment eux vont? Comment eux peuvent pousser? Là, on nous raconte, Hachem va les conduire sous la terre à Yerushalayim. C'est une mitzvah, si on peut, je crois, d'être rentré en Eretz Israël, mais sinon, Hachem va les conduire, c'est pas un problème. Alors, en tout cas, Yerushalayim, Triatemetim sera Yerushalayim. Alors, Vayatitzemir, vous avez raché ici, Vayatitzomir, Chatidim Israël, Latitz, Velifroach, Mir, Yerushalayim, ils vont pousser dans la ville de Yerushalayim, Kedamrin, Ktobot, Mechilot, les Tzadikim, ils ont des espèces de grottes, c'est pas le corps, c'est notre, c'est la Neshama, Volchin, Volin, Yerushalayim. Alors, ils vont vivre à Yerushalayim. Et là, ça je sais, Cléopâtre dit, je sais. Et la Kishen Omdim, mais quand ils vont se lever, Omdim Arumim ou Bilbushen Omdim, est-ce qu'ils vont se lever sans habits ou ils vont se lever avec des habits? Amarla, il a répondu, je peux le déduire d'un grain de blé. Umachita, Shenikbara un grain de blé, quand on le met dans la terre, Arumwa, elle n'a pas d'épi autour, elle est nue. Yotzabe Kamalebushin, mais quand elle sort de la terre, il y a plusieurs habits, les épis de blé. Donc, il y a l'épi, après, il y a toutes sortes, la cache, la paille, il y a différentes protections. Tu mets un grain nu dans la terre, et il pousse avec beaucoup d'habits. Tzadikim, shenik berim bilvushem, les tzadikim qui sont enterrés avec leurs habits, à la hat kama vakama, qu'ils vont se lever avec des habits. Alors, cette histoire-là, pourquoi elle s'est intéressée, cette femme, à savoir avec habit ou sans habit? Ça vous change pas, madame? C'est une question, quoi, c'est important à savoir. La traité métime, c'est bon. C'est un changement puissant. Mais avec les habits ou sans les habits, c'est un détail, aucune importance. Pourquoi elle s'intéresse à ce détail? Alors, soit elle voulait se moquer. C'est en vérité, vous les. C'est une façon de se moquer. Soit, c'est possible que le pshat, il est. En vérité, les habits, ça ne veut pas dire les habits. Quand elle parle nu ou avec habit, Ce n'est pas physiquement, mais toujours les mitzvot sont les habits. En Chazal, il y a une expression qui s'appelle l'habit des tzadikim, ce sont les mitzvot. Les mitzvot ont pour la neshama de l'homme. Et vous voulez savoir, quand il y a triet emetim, les gens, ils vont se lever avec les mitzvot, ou il y a une nouvelle vie qui va, il y a une nouvelle vie après, et il faut recommencer. On commence à zéro. Où ça, la vie dans le monde futur commence avec des habits, ça veut dire que les mitzvot qu'on a fait. Peut-être c'est ça était la question. Et lui, il dit, un grain de blé, il sera avec plusieurs habits. À plus forte raison, des tzadikim qui sont enterrés avec les habits, ça veut dire avec des mitzvot. Les tzadikim, quand ils meurent, ils rentrent sous la terre, ils amènent leurs mitzvot dedans. Alors, quand ils vont se lever, ils vont pas commencer à zéro, mais ils vont commencer leur vie tout de suite avec ces mitzvot. Avec lesquels ils sont rentrés dans la terre et avec plusieurs habits, ils vont monter. Amalokei sal Rabban Gamliel. Le César, il a demandé Rabban Gamliel où il a rencontré. Soit Rabban Gamliel, quel Rabban Gamliel, on ne sait pas si c'est le Rabban Gamliel le premier ou le deuxième. Où il a rencontré, ou à Rome, ou à Césarée. On est en Israël. Amalokei sal Rabban Gamliel. Amritu, vous dites, de Shachvi, et les morts, ils vont revivre. Alors je pose une question. Avec Afre, mais leur corps devient poussière. Afre mikochaye. Et la poussière, depuis quand ça peut revivre? Je ne comprends pas. Comment vous pouvez dire une chose tellement, tellement, tellement bizarre? On n'a jamais vu la terre qui commence à vivre. Et qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait dire qu'Amriel, il dit n'importe quoi. Et alors, bon, alors j'ai dit n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il veut? Pourquoi ça le gêne? Alors, ici, on dit n'importe quoi. Ah non, je ne vous laisse pas, monsieur. Parce qu'en vérité, les Romains, ils voulaient assimiler les Juifs. Et ils ne voulaient pas que les Juifs ne rentrent pas dans le. Ils font pas participer. Ils voulaient que les Juifs participent à la population romaine. Et les Juifs, ils ont dit, mais nous avons une religion, mais nous avons des idées formidables. Mais vous n'êtes pas des croyants, nous vivons selon un concept, selon beaucoup de concepts de la Torah. Et alors, entre autres, ça existe Triat Emitim, nous croyons Triat Emitim, et nous faisons des mitzvot parce qu'il y a Triat Emitim. Donc ça empêche aux Juifs de s'abaisser, de vivre comme les Romains. Alors il a dit, mais c'est bizarre. Et comme c'est bizarre, je n'y crois pas, vous n'avez pas de raison à y croire. Donc vous êtes attaché à ces gens, à une religion stupide, comme ils disent tous les apicorsim dans toutes les époques, mais c'est stupide ce que vous faites. Donc vous soyez comme nous, et si vous n'êtes pas d'accord, on vous frappe jusqu'à ce que vous allez être comme nous. Parce qu'on ne veut pas que les gens ils vivent dans l'obscurantisme. Comme ça, ils disent les apicorsim. Alors il faut leur répondre, on n'est pas du tout stupide. Alors, il voulait leur répondre, mais Amr les braté. Alors le fils du roi est intervenu. Amr les brat, donc elle était aussi présente pendant cette discussion. Amr les brat, et la fille du roi dit Shafkei. Elle dit à Amriel, laissez mon père, laissez. Ne répondez pas, monsieur le rabbin. Moi, je veux répondre à mon père. Qu'est-ce qu'elle a répondu? Il y a dans notre ville des gens qui font de la poterie. Yesh echad yotzer minamayim. Un, il fait de la poterie, il fait des cruches. En s'utilisant l'eau, et l'autre, il utilise comme matière première de l'argile. Lesquels c'est un plus grand artisan? Elle demande à son père, dis-moi papa, dans une ville où on fabrique des cruches, un, il utilise comme matière première l'argile, et l'autre, il utilise l'eau. Qui c'est un meilleur artisan? Amarlo, il a dit, c'est celui qui est capable de transformer de l'eau. En poterie, ah, c'est un plus grand génie. Amrolo, donc elle a dit à son père, c'est-à-dire quoi l'argile? La terre. Qu'est-ce qu'il a dit le père? Qu'est-ce qu'il a dit le père, l'empereur? Comment Dieu il peut faire triatem metim étant donné que le corps vient de la terre? Alors, c'est de la terre, c'est de la matière qu'on peut toucher. On peut faire de la poterie avec de la terre. Mais c'est plus facile de faire avec de la terre qu'avec de l'eau. Donc si Dieu il est capable de créer de l'eau à partir de l'eau, à plus forte raison à partir de la terre. Donc il n'y a rien de bizarre dans la philosophie des Juifs. L'Ichora, pourquoi la fille n'a jamais dit ça à son père? Cette discussion, elle aurait pu se passer entre le père et la fille sans la présence de Rabban Gamliel. De cette histoire, il semble que le père n'a rien dit. C'est-à-dire, la fille a gagné. Elle a dit un argument, mais un argument. Si le père il dit « tu parles des bêtises, ma fille », Rabbi Gamliel aurait jugé que la fille est intelligente et le père, il est bête. Le père n'osait pas dire « ma fille, tu dis des bêtises ». Parce que le rabbin, il va dire, mais a gagné. Elle dit, logique, vous n'êtes pas logique, monsieur le roi. Donc, il pouvait pas le dire. Mais ces discussions auraient pu se passer chez eux. Quoi, il a toujours gardé, le père n'a jamais eu abordé ces discussions devant sa fille. Alors, c'est possible qu'en vérité, la fille, elle ait déjà entendu la chita de son père. Mais elle n'a jamais eu cette idée. Et c'est en présence de Rabbi Gamliel qu'elle a eu cette idée. Parce que ça existe, ce qu'on appelle la transmission de pensée. C'est quand on se trouve devant un homme qui pense quelque chose, on peut capter la pensée des fois. Et spécialement un homme, et sa pensée, elle est très très forte. Il est très attaché à cette pensée. Dès qu'on arrive à sa présence, on peut capter. On va y aller chez un grand, chacham, et tzadik, un truc, on arrive chez lui, on a la réponse à la question, souvent. Ça y est, c'est sa présence, ça envoie la réponse. Il y a des gens qui captent, ils ne posent plus leurs questions. Ils ont tout de suite compris. Parce qu'il y a une force de transmission. C'est possible que le père disait cette chita toujours à sa fille, mais qu'est-ce que disent les juifs? Comment traitent-ils? Ça ne tient pas la route. Et la fille pensait, c'est une bonne question que le papa demande. Et en présence de Rabban Gamliel, Rabban Gamliel dans sa tête, tout de suite, il voulait dire cette réponse. Tout de suite, la fille, elle a capté. Laissez monsieur le rabbin, ne répondez pas. Moi, je vais répondre à mon père. Et pourquoi Bémet, elle voulait répondre? Pourquoi elle ne laissait pas Ramoli elle répondre? Hein? Parce qu'elle se dit, ça va être encore mieux. Si moi, je le réponds, il ne pourra pas dire c'est n'importe quoi. D'abord, il ne veut pas déconsidérer sa fille. Et aussi, le rabbin va être juge entre lui et sa fille. Peut-être pas le rabbin, peut-être il y avait 1000 personnes en présence. Tout le monde va juger la fille plus intelligente que le père. Alors, de Beir Rabbi Ishmael Tana, dans la Yeshiva de Rabbi Ishmael, on racontait l'histoire un peu différente. Et la réponse que la fille donnait, ce n'était pas pour le poterie, mais c'est pour ceux qui fabriquent de verre. Kal v'chomer miklei zechuchit. Enfin, kal v'chomer de ceux qui fabriquent des ustensiles en verre. Ma klei zechuchit she'amalan baruach basar vadam. Pour fabriquer des ustensiles en verre. Comme on fabrique Berouach avec le souffle Bassar Vadam, un homme qui soufflait, les souffleurs de verre. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, j'ai déjà vu. Ils ont une espèce de paille, une paille pas en plastique, mais ils soufflent dedans le vent, dans, là où il y a un four, où il y a, je ne sais pas, 800 degrés, 900 degrés, où on met dedans du sable, on souffle dedans et on fabrique des clés rouchit. Nishberou. Qu'est-ce qui se passe après quand elle se casse? Un verre, il se casse. Yeishlem takana, eh bien, on peut réparer. On reprend les verres, des débris, on le met dans le four, et hop, et ça recommence, on peut faire la même chose. Passar vadam shibruch shelakadesh baruch hu, un homme en chair et en os, qui était créé avec le souffle de Dieu, ce n'est pas un homme qui a soufflé, c'est Dieu qui a soufflé, vayipach. Dieu il a soufflé une âme à l'achat kama vakama que si l'homme il se casse, il est réparable, il y aura triat emetim. Un souffle de l'homme ou un souffle de Dieu, le souffle de Dieu il est 1 000 000 fois plus fort. Un verre qui est fait par un souffle d'un homme, ça se casse, on peut réparer parce que le souffle de l'homme, ça on peut refaire. Alors le souffle de Dieu a plus forte raison. Il y en a qui disent que c'est ça qu'elle a. Fille répondait à son père. Amale haoumine le rabbi ami. Donc il y avait un mine. Alors ça c'est un mine, c'est-à-dire déjà un hérétique. Il y avait un hérétique qui disait à rabbi ami, Amri tu vous dites de shach vechaye que les morts ils vont vivre, mais ils vont devenir de la poussière. Afre mi kechaye, de la poussière, comment ça peut revivre? Alors, Ravami, qui c'est Ravami? Ravami, c'est un élève de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan habitait en Eretz Israël. En Eretz Israël, il y avait beaucoup de discussions avec les Apikorsim. Alors, Rabbi Yochanan, il avait plusieurs grands élèves. Les plus grands élèves de Rabbi Yochanan, c'était Ravami, Ravasi et Rabbi Evaou. Et les trois, ils étaient souvent engagés dans des répondre à des questions. Alors, Amar Yahou, Mine le Rabbami. Amrit vous avez dit de Shach Vechaye que les morts vont vivre. Akafremi, ils sont devenus poussière, Vafremi Kuchaye. Amar Lo, il lui a dit, Emshal Lecha Mashal. Je vais te donner un Mashal. Le Maha Devar Dome, à quoi ça ressemble? Melech Basar Vadam, il y avait un roi en chair et en sang. Amar Avodav, il a dit à ses serviteurs, Luchu Ubanu Lipal Terim Gedolim, Ramakom Sheemaim Va'afar. Construisez-moi des grands palais dans un lieu où il n'y a ni terre et ni de l'eau. Mais comment on peut faire pour faire un Pal Terim, pour faire une maison, pour faire un palais? Il faut de l'eau, il faut de la terre. Alors, comment on peut faire là où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de terre? Il faut l'importer. Il faut l'importer de loin. Moi, je vous construis là-bas. Halchou, ils sont partis au Banu Oto. Ils l'ont construit. Les Amim, après des années, Naflou, et bien la maison s'est écroulée. Amar Lehem, il leur a dit, Chazrou, refaites, ve Banu Oto, ve Makom Shesh Afaromai. Maintenant, je vous demande de construire ce palais là où il y a de l'eau, il y a de la terre. Amroulo, ils ont dit, Enonu Cholim. Ah, on n'est pas capable. Kaasalehem, il s'est énervé. Bamar lehem, il leur a dit, Bamakom, Shein Maim va far banitem. Achsav, Shein Maim va far lachat kama va kama. La première fois, vous avez été capable de construire. Et dans un endroit où il n'y a pas de terre, où il n'y a pas de l'eau, vous avez réussi à construire. C'est beaucoup plus difficile. Maintenant, je vous demande quelque chose de facile. Là où il y a de la terre, il y a de l'eau. Pourquoi voulez-vous pas qu'on peut construire? Et dans quoi? Qu'est-ce qu'il voulait dire? C'est quoi triatémitim? Tu demandes, c'est illogique triatémitim. Comment Dieu peut, à partir de la terre, construire? Mais le premier, l'homme, la première fois qu'il est en vie, il n'a même pas de la, il n'a même pas de la terre. Hachem, il a créé l'homme la première fois aussi. À base de quoi? À base de rien. Adam Arishon a été créé ex nihilo. Au début, il n'y a rien. Et Hachem, il peut créer. Maintenant, il y a déjà quelque chose. À la plus forte raison, c'est facile. Qu'est-ce que c'est comme logique incompréhensible? Comment Dieu peut créer de la terre? Mais de rien, vous êtes obligé d'accord, de rien, il a créé de rien. Alors, pour qu'est-ce que voulez-vous? Il ne peut pas créer de ce qui existe déjà. Imite ma amin. Et si tu ne veux pas croire qu'il existe des choses comme ça de la terre, c'est le Bika. Allez-y dans une vallée. Ouré, regarde, Akhbar. Akhbar. Rashi traduit un escargot. Rashi traduit escroll. Ce n'est pas un écureuil comme quelqu'un traduit. Ça veut dire un escargot. Un escargot. Shayom Khatsi Abassar, Khatsi Adama. Aujourd'hui, il est moitié terre. Moitié du encore de la. Matier le corps, son corps matier de la terre. Le machar demain, Ishritz, Venas et Koulobassar, il est entièrement. Le corps, peut-être c'est les escargots, non, pas escargots, c'est les. Comment on appelle ça? Les tsfardeya? Grenouilles. Les grenouilles sont d'abord des têtards. Un grenouille, il a un corps sur la terre sèche. Avant, c'est un têtard. Bon, je ne sais pas exactement quel animal c'est. Rachid dit escroll, escargot. Ça veut dire, en tout cas, le corps, il se fabrique. Il utilise même la terre pour fabriquer son corps. Mais c'est même un ver de terre. Comment ils sortent les vers de terre? Un ver de terre dans une pomme. Mais d'abord, c'était un œuf. Vous avez déjà vu les œufs? Une petite pointe, ou noire, ou blanche. Et d'un coup, c'est un ver de terre. Mais d'où il sort? Le sucre de la pomme. Et quand il sort, comment il sort? D'abord, il y a un millionième, un tout petit truc. Là, des fois, on le voit, des fois, on ne le voit même pas. Disons, on voit les œufs. en un œuf. Et après, il a un corps. Le corps, c'est la pomme est devenue son corps. Alors, la terre aussi. Peut-être tu vas dire les man me roubaient, il faut beaucoup de temps. Mais non, on n'a pas besoin de beaucoup de temps. Tu vois, quand il faut 2000 ans pour que la terre se transforme en animal, qu'un ver de terre il se construit à partir d'une pomme, de sucre de pomme. Allez, le har, va sur une montagne. Aujourd'hui, il y a un escargot. Khilazon, je ne sais pas exactement qu'est-ce que c'est, on ne sait pas. Il y en a qui traduisent escargot. Aujourd'hui, il y a un escargot. Le mahar demain, hier, d'Okshamim, ils vont descendre la pluie. Il y en a 1000. Il y en a 1000 escargots. Le escargot, il y en a qui poussent très vite. Alors, bon, des fois, il vient d'ailleurs ou il vient de sous la terre. Où ils se multiplient, peuvent se multiplier beaucoup. Alors, qu'est-ce que tu poses cette question? De quelque chose de presque rien, il peut se pousser. Amaleha ou mine le gvir ben passissa. Il avait dit, sape koires à monsieur gvir ben passissa. Vailechon chayavaya, gar à vous les voyous que vous êtes. Tamriton que vous dites, meitechayin, que les morts vont revivre. Les chayin meite, déjà les vivants, ils vont mourir. De meitechayin, les morts, ils vont revivre. Mais vous êtes des grands voyous. Comme ça, il dit, c'est Apicoeres, Agvia Bempsisa. Qui c'est Agvia Bempsisa? Un juif. C'est un juif qui ne compte pas parmi les Chachans. Il n'était pas un Tamid Chacham. Mais c'est un bon juif intelligent. Il écoutait les Chachamim bien. C'est un Yid Chacham. Et il avait beaucoup de connaissances pour discuter avec les Goyim. À quelle époque il a vécu? À l'époque de Shimon HaTzadik. Au moment qu'Alexandre le Grand est venu en Eretz Israël, ça veut dire 50 années après le Chorba, après la construction du deuxième Beth Amikdash. 50, 60, 70 années après la construction, un contemporain de Shimon HaTzadik. Alors, il y avait donc un apicoïre déjà à l'époque. Ça, c'est beaucoup avant le christianisme. Ça, c'est un des Sadduciens, Tzadoko Baitos. Déjà à l'époque, il y avait des apicorsim. Il disait, il insulte le juif religieux croyant, gare à vous voyous que vous êtes. On est des voyous. Parce que vous dites que les morts vont revivre. Alors vous êtes des voyous. Parce que des chayin maïté, des maït chayin. Si déjà les vivants vont mourir, comment vous dites le contraire que les morts vont vivre? Même un vivant doit mourir, alors comment un mort peut vivre? Et pourquoi on est. Alors pourquoi Gvir Psissa, il est maintenant un voyou? En quoi il est voyou? Un voyou, c'est quelqu'un qui fait du mal aux gens. En quoi cette philosophie fait mal aux gens? Qu'est-ce que ça veut dire, vous êtes des voyous? Ça veut dire, il faut comprendre que Sapikoires, il considérait que les juifs croyants, ils dérangent le monde ou dérangent les gens de vivre tranquillement. Les gens, ils veulent faire des avérotes. Et quand ils veulent faire des avérotes, après, il rencontre un juif religieux et le juif religieux dit, vous savez, il faut pas faire d'avérot, sinon vous allez être puni. Puni, où je vais être puni? Ben, dans ce monde, j'ai le même âge que vous, j'ai la même santé que vous, je vois pas du tout, il y a plein de gens comme moi qui font d'avérot et ils mourront tranquillement comme tout le monde. Alors le juif religieux dit, oui, mais dans l'autre monde, tu vas perdre. Et à cause de ça, quoi? Vous voulez que j'arrête de faire d'avirot? Mais vous m'embêtez. Mais j'y crois pas, mon futur. Alors, la pécure se dit, vous croyez pas. Et votre émouna m'empêche de faire d'avirot. Vous êtes des voyous, vous me laissez pas tranquille. J'ai plus de la conscience tranquille. J'aurais voulu que vous vous taisez. Comme ça, je peux faire d'avirot sans avoir une mauvaise conscience. Alors, c'est la pécure, pas plus c'est moi. Il insulte les juifs croyants que c'est des voyous. Pourquoi? Parce qu'il ne laisse pas tranquille la conscience des voyous. Amarlo, alors Gvir Psissa le répondu, va il chon chavaya, gare à vous, voyous que tu es. Damriton, parce que vous dites, meit lo chayin, les morts ne peuvent pas vivre. Mais, de lo have chaye, quelqu'un qui n'a pas existé un moment, chaye, un moment il vit, de have chaye, ce qui a déjà vécu, lo kol sheken, n'est pas plus forte raison qu'il peut vivre une deuxième fois. On pourrait garder le contraire. Chacun qui est en monde. Hier, il n'était pas là. Il y a 50 ans, il n'était pas là. Vous avez quel âge? 40 ans. Donc, il y a 50 ans, vous n'existez pas. Donc, Dieu, il a fait d'une sorte que quoi? Que ce qui n'a pas existé, il vit. Alors, ce qui a déjà vécu, et après, il est mort. À plus forte raison, il peut vivre une deuxième fois. Parce que même quelqu'un qui n'a jamais vécu, il peut vivre. Donc, si vous, vous avez une tête tordue, à Morlo, alors l'apicole s'est dit, « Chaive caritli, quoi, tu m'appelles voyou ?» Tu m'appelles voyou? Il a déjà oublié que lui, il a appelé le juif voyou. Et quand le juif lui redonne, alors lui dit, quoi? Tu m'appelles voyou? Ika imne, si je me lève, vaitne becha, je vais te donner un coup de pied. Ou pashitne lak mumech minach, et je vais redresser ta bosse. Agriye même si c'est un homme qui avait un bosse. Une bosse. Alors, c'est un homme bossu, très, très bossu. Alors, il dit, si je me lève, je donne un coup de pied et ta bosse va devenir droit. Je vais te remettre droit. Amarlo, il a répondu, si tu fais ça, au fait umantikere, et bien tu seras un médecin umantikere. On va t'appeler un médecin de grande qualité qui a pu redresser la bosse de Gvir Bemsisa. Mais c'est rare, tu vas gagner beaucoup d'argent. Beaucoup de gens ils vont venir chez toi et ils vont te payer pour que tu redresses leur dos. Qu'est-ce que c'est cette histoire-là? La première partie, on a entendu, c'est une discussion philosophique. Et la deuxième partie de l'histoire, lui s'énerve et il dit, quoi? Tu m'appelles voyou? En vérité, pourquoi il dit « tu m'appelles voyou » Mais c'est toi qui as commencé à m'appeler voyou. Quoi, c'est toi? Pourquoi je t'appelle voyou? Et pourquoi toi, tu m'appelais au début voyou? Et pourquoi ils s'étonnent? C'est-à-dire qu'ils ont deux poids, deux mesures, ces apicorsim. C'est-à-dire, eux, ils peuvent se permettre d'appeler un autre qui dit quelque chose qui ne lui plaît pas, tu es un voyou. Si l'autre, il pense autrement que toi, tu es un voyou. Et si l'autre, il t'appelle voyou parce que toi, tu es le contraire de lui, alors là, tu t'énerves. C'est les deux poids, deux mesures. Ils ont la chutzpah d'Epicorsim. Mais ça aussi, cette manière, quand on dit un argument, on commence avec des choses personnelles. C'est un truc connu, ça ne tient pas la route dans une discussion. Quand on fait une discussion sur un sujet, on ne peut pas dire à l'autre, il y a un mot en français, comment ça s'appelle, on dit à l'autre, mais c'est faux ce que vous dites. Pourquoi? Parce que vous avez une bosse. Et moi, je vais donner un coup, je vais redire le boss. Attends, tu deviens personnel maintenant, c'est une discussion personnelle, tu as quelque chose contre ma boss, je ne te plais pas. Ah, c'est ça, ah, c'est une déviation, il dévie la discussion. L'apicorsim, quand ils sont mis échec mat, alors ils commencent à parler autre chose. Mais qu'est-ce qu'il dit? Si je me lève, je donne un coup de pied et je vais redresser ton dos. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Comme ça, il est nerveux, il insulte. Alors pourquoi il ne s'est pas levé? S'il veut, il n'a qu'à se lever, donner un coup. Donc, il n'a pas osé de lever, parce qu'il ne pouvait pas le faire. Il y avait des gens autour. Et s'il veut lever les pieds, il devient, ça, il s'est déconsidéré. C'est ce qui devient vulgaire pendant une discussion, c'est-à-dire, il a perdu, sa philosophie est tombée. Donc, il ne peut pas le faire. Alors, il ne peut pas le faire, mais il le dit au moins. Et à quoi ça sert de le dire? Comme ça, il est en colère. Il a perdu, il est en colère. Alors, il dit, j'aurais voulu te donner un coup. Mais qu'est-ce qu'il dit? Je vais te donner un coup et je vais te redresser ta bosse. Est-ce que tu es content, ma bosse? Comme ça, vous êtes dégoûtant. Mais je te dis un argument qui est juste. Mais c'est ça qui l'énerve. Un homme qui est un esprit tellement dégoûtant et en plus, il a gagné contre moi. Mais il y a un truc ici. Probablement, il y a un truc ici. Il s'est dit comme ça, pourquoi ce monsieur, il est courbé? Qui c'est un monsieur qui est courbé? C'est un monsieur qui a la coutume de regarder toujours par terre. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui réfléchit et qui ne regarde pas trop ce qui est autour de lui. Il ne cherche pas à voir dans le monde, mais il est en train de réfléchir. Et quand on réfléchit, quand on se concentre, un homme qui marche dans la rue se concentre et regarde par terre, doucement, doucement, ça fait une bosse. Donc, il a bien compris que ce Gvir Bemsisa, c'est un homme très intelligent. Et son intelligence, c'est que cet homme-là, il réfléchit. Et c'est avec cette réflexion, il a répondu, j'aurais voulu te redresser, tu dois marcher droit et regarder ce qui est autour de toi. Autour de toi, il y a plein d'apikorsim. Le monde entier ne croit pas à votre histoire de Olam Haba. Regarde ce que le monde dit, ne reste pas dans ta propre, ne reste pas dans ta propre philosophie. J'aurais bien voulu te redresser, te faire sortir ton idée, parce que tu es un rachat, parce que tu m'embêtes de vivre et je dois te redresser, remettre droit pour que tu arrêtes de réfléchir à ta façon, mais regarde ce que le monde dit. À Marley, alors il a répondu, si tu fais ça, si tu veux, alors tu seras vraiment un docteur spécial et tu vas gagner beaucoup d'argent. Qu'est-ce qu'il voulait lui dire? Il lui a souhaité beaucoup d'argent. Et il souhaitait beaucoup d'argent. En vérité, il voulait lui donner une petite flèche. Il a dit, si tu fais ça à moi, ça ne suffit pas de faire à moi. Il faut le faire à beaucoup de juifs. Je suis un juif parmi des millions de juifs. On croit tout seul à ma main. Si tu veux faire sortir chez moi mon idée, alors il faut le faire sortir de tous les peuples juifs. Et là, il faut un grand médecin. Ça veut dire jamais tu arriveras. Il veut lui dire, rêve toujours. Tu vas changer le peuple juif, tu vas te casser les figures. Tu vas commencer avec moi, tu veux commencer à un. Tous les juifs, on est attachés à ça. On ne peut pas nous changer, monsieur. Tu peux gagner beaucoup d'argent. Rêve toujours. C'est une façon de dire. C'est une façon de dire, justement, tu n'es pas capable de faire. Parce que chez nous, il n'y a pas de médecine. On ne peut pas nous convaincre le contraire. On est tellement convaincu de ce qu'on dit. C'est tellement juste. Jamais tu arriveras à faire ce que tu veux faire. Bon, c'est 6 heures.